écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups. Soyez les bienvenus dans notre émission Culture avec Claude Lévy. Ce soir, mon invité est une historienne de l'art, spécialiste du 19e et du 20e siècle, conférencière, ancien professeur à l'école du Louvre et auteur de plusieurs ouvrages sur la peinture, la sculpture et la littérature. Je vois un très gros volume qui est consacré à Georges Alexandre. On a parlé de cet Alexandre Manceau qui était graveur et qui a vécu 15 ans à Nohant auprès de Georges Sand, parmi tant d'autres. D'autres livres sur l'un sur Mazerolle, qui est un grand décorateur, et puis 50 ans de sculpture monumentale en Normandie, et puis les artistes européens dans la Grande Guerre. Donc vous voyez, on est avec une auteure historienne de l'art et passionnée de littérature. Elle publie aux éditions L'Harmattan un livre surprenant par l'étendue des sujets abordés, par la multiplicité et la force des personnages qu'elle nous fait connaître, des personnages réels, par la simplicité et l'élégance de son écriture aussi. Mon invité nous plonge dans le monde extraordinaire de créativité et d'audace du groupe de Bloomsbury, dont la figure la plus célèbre est Virginia Woolf. Mais on voit que pendant une cinquantaine d'années, dès le tout début des années 1900 jusqu'aux années 1950, des dizaines d'hommes et de femmes vont constituer le véritable creuset des temps modernes. Bonsoir Marie-France Lavalade.
Bonsoir Claude Lévy.
Tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous dans le Val d'Oise à l'occasion de la parution de ce livre remarquable, Virginia Woolf et le groupe de Bloomsbury. Vous nous faites découvrir l'Angleterre du tout début du XXe siècle, celle de Virginia Woolf, de sa famille et de leurs amis. Un monde foisonnant et palpitant de vie, avec des personnages exceptionnels, faut bien le dire, ils sont hors du commun, et nous les suivons presque au jour le jour. Ce ne sont pas des héros, ni des stars, ce sont chacun à leur manière des artistes, des créateurs. Ils n'ont rien de banal, ni dans leur vie, ni dans leur conception, ni leur vision du monde et dans leurs relations non plus. Et en même temps, tous ont le goût de la simplicité. Replacez-nous dans le contexte, Marie-France Lavalade. Nous sommes au début des années 1900. Les deux premiers personnages du livre sont deux sœurs, Vanessa et Virginia. Vanessa un tout petit peu plus âgée, Virginia de 2 ans, sa cadette. Qui sont-elles et dans quelle famille vivent-elles? Marie-France Lavalade.
Alors c'est une famille recomposée. C'est une famille dans laquelle le père est un intellectuel, Monsieur Stephen, Leslie Stephen. C'est un grand intellectuel issu d'une famille d'intellectuels, de juristes, d'intellectuels, d'historiens. Lui, il s'est mis en route pour écrire le dictionnaire des biographies nationales. C'est un dictionnaire qui, à la fin, fera 62 ou 64 volumes, je me souviens plus exactement, mais dans lesquels vous trouverez la biographie courte, bien sûr, de tous les gens qui ont compté dans l'histoire de l'Angleterre. C'est absolument ahurissant.
Sur 1000 ans.
Voilà. Alors, il ne s'y est pas mis tout seul, bien sûr, il a fait travailler d'autres gens, mais c'est quand même son projet. Donc, lui, il va se marier 2 fois. La première fois avec la fille du poète écrivain Thackeray, et la deuxième fois avec une Julia Jackson, qui s'appelle maintenant Julia Duckworth, parce qu'elle a épousé Monsieur Duckworth. Elle est veuve, elle a 3 enfants. Lui, il est veuve avec une petite fille. de leur union à tous les deux. J'espère que je ne perds pas les auditeurs avec tout
ça. Voilà, Leslie, Stephen et Julia Duckworth se marient. Et Madame devient Julia Stephen.
Elle devient Julia Stephen. Et ils auront ensemble 4 enfants. Donc ces 4 enfants se répartissent de la façon suivante. Vanessa, l'aînée, qui sera le très grand peintre Vanessa Bell, qu'on connaît très bien en Angleterre, mais qu'en France on connaît pas très très bien. Juste après elle, il y a un garçon qui s'appelle Toby, et Toby va faire ses études à Cambridge, et là il va appartenir à un truc qu'on appelait une société secrète à l'époque, une petite société secrète d'intellectuels à l'intérieur de l'université. Il est élu à Trinity College et il va se retrouver avec d'autres garçons dans cette société secrète. Et dans ces garçons, il y a entre autres le très très célèbre John Maynard Keynes, le grand économiste du XXe siècle, puis d'autres garçons. La troisième, c'est Virginia, que tout le monde connaît sous le nom de Virginia Woolf, même si certains ont du mal à la lire parce que en anglais et en français, son écriture n'est pas si simple que ça.
On y viendra.
Et puis le quatrième s'appelle Adrian, il deviendra un grand psychanalyste et il aidera à publier un certain nombre de textes psychanalytiques. Voilà pour la famille.
Voilà, c'est parfait. On a donc Leslie, Stephen et Julia, les 4 enfants, Vanessa, Toby, Virginia et Adrian. Cette famille recomposée, il y a déjà pas mal de morts derrière eux. Mmh. Il va y en avoir d'autres, notamment celle de Julia, la mère de Virginia Woolf, va disparaître de maladie, et ça va énormément affecter bien sûr l'équilibre de la famille et l'équilibre mental peut-être de Virginia elle-même.
Oui, Virginia perd sa mère à 13 ans. C'est pas le bon âge pour perdre sa mère, si jamais il y a un bon âge pour perdre sa mère. Et elle est déjà un peu fragile, c'est pas une enfant pour qui tout est facile dans sa tête, pour qui tout est facile dans la vie. Elle perd sa maman, c'est une véritable catastrophe. Donc elle va faire ce qu'on pourrait appeler une dépression nerveuse, sa première plongée aux enfers, et toute sa vie ensuite sera scandée par des plongées aux enfers. Elle va tomber de temps en temps au fond du trou. Alors parfois c'est à cause de mort, parce que Claude Lévy vous le disait, mais il y a de nombreux... sa maman va mourir, ensuite c'est sa demi-sœur, la fille de Julia Jackson quand elle n'était pas encore avec Monsieur Stephen.
Ensuite, qui s'appelle Stella
et qui aura un rôle très maternel après la mort de Julia. C'est elle qui va faire marcher la maison. Et elle va mourir à peine mariée. Elle est mariée, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle part en voyage de noces, elle meurt. Donc deuxième mort. Troisième mort, c'est papa. Leslie Stephen va mourir. Alors c'est un homme assez particulier, ses enfants ont du mal avec lui, sauf Virginia. Parce que Virginia et son père partagent une passion totalement dévorante pour la lecture. Et donc elle va le rejoindre dans son bureau, elle se met dans un petit coin, elle lit tous les livres qui lui passent sous la main. Et du coup, elle le voit avec d'autres yeux que ses frères et sœurs, et pour elle, cette mort est tragique. Alors, à la suite de cette mort, c'est la suite de cette mort, le début du livre en fait. C'est le moment où Vanessa, qui est la fille aînée, va dire « bon, ça suffit comme ça, on arrête de vivre à Kensington, dans cette grande maison austère, triste, etc. On va habiter entre nous, les 4 enfants Stephen. » Alors 4, ça veut dire 2, parce que les garçons, eux, ils sont à Cambridge, ou ils sont en train de faire leurs études. Donc elles les ont pas véritablement à la maison, sauf le week-end. Et elles vont s'installer à Bloomsbury.
Alors qu'est-ce que c'est que Bloomsbury ? C'est un nom un peu magique. Quand on évoque ça, on a l'impression que c'est un endroit perdu. Pas du tout. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
Alors aujourd'hui, Bloomsbury, c'est un quartier chic. C'est pas très loin de la gare de Saint-Pancras. Pour ceux d'entre vous qui vont à Londres de temps en temps, vous arrivez, vous faites 10 pas et vous êtes dans Bloomsbury. Mais à l'époque où Vanessa va décider de s'installer à Bloomsbury, c'est un quartier qui est plutôt mal famé. Alors, quand je dis mal famé, j'exagère un petit peu, mais c'est pas un beau quartier. C'est un quartier qui a été beau au XVIIIe siècle, mais les maisons sont un peu pelées. Il y a beaucoup de pauvres gens. Il y a des rues entières, Jew Street par exemple, qui est une rue qui est lamentable, enfin qui est très pauvre. Du coup, quand les filles vont décider de s'y installer, levée de boucliers de toute la famille et des amis de la famille, Henry James va dire que c'est déplorable. Enfin bon, il va y avoir toute une levée de boucliers, mais ça n'empêchera absolument pas les filles de s'y installer et d'y faire souche. D'où le nom du groupe de Bloomsbury, Bloomsbury Group, qui a été donné par les Anglais à ce groupe d'individus dont on va parler dans quelques temps.
Bien sûr. Alors, Vanessa, à la mort de son père, donc, comme vous le disiez, décide de quitter Kensington, et surtout elle décide de vivre autrement, c'est-à-dire de mettre par terre toutes les conventions qui les étouffaient, toutes ces filles, tous ces garçons. Qu'est-ce que ça signifie, cet abandon des conventions? Elle était déjà préparée à ça, ou c'est vraiment ces morts-là, mort de la mère, mort du père, qui engendre ce besoin de grande liberté, de remise en question totale?
Alors, je pense qu'il y a... Comme dans toute chose, il y a vraiment des faisceaux de causes qui aboutissent à quelque chose. Alors déjà, le fait que après la mort de Stella, Vanessa a senti que ça allait être sur elle, que ça allait peser. Alors maman a fait le job, à la mort de maman, Stella reprend le tablier, Stella meurt, allez hop, c'est Vanessa. Et Vanessa se dit, mais... où je vais là? Vanessa est peintre, hein. Elle a appris la peinture et elle veut devenir peintre. Enfin, elle se sent pas femme au foyer, elle se sent pas maîtresse de maison. Donc il y a ça. Ça c'est sûr. Ça c'est le déclencheur. Mais après, ce qui va se passer, ça va être la fréquentation des amis de Toby. Parce que Toby va ramener à la maison ses copains de Cambridge. Et les copains de Cambridge, ils sont vraiment intéressants. Mais il y a
ce sont des garçons.
Ce sont que des garçons, dont la plupart d'ailleurs sont homosexuels. Homosexuels qui, pas forcément pour toute leur vie d'ailleurs, mais enfin à ce moment-là, ils le sont. À peu près tous, on va dire. Peut-être pas tous, je n'ai pas vérifié si tous, mais enfin, à peu près tous à ce moment-là. Et quand ils arrivent dans cet appartement, les filles...
Au 46 du Gordon Square.
Oui, c'est ça, au 46 Gordon Square, qui va être le premier lieu. Mais après, elles vont essaimer. Enfin, il va y avoir du groupe de Bloomsbury dans tout Bloomsbury. Mais au départ, c'est le 46 Gordon Square. Et là, les gars vont se réunir pour discuter, et les filles vont rester avec eux. Ça, c'est le deuxième élément.
Ça, c'est une révolution. Quoi.
Ça, c'est une révolution. Parce que ça n'arrive pas. C'est-à-dire, dans les salons huppés, la maîtresse de maison va faire des soirées dans lesquelles hommes et femmes vont pouvoir se rencontrer. Mais dans des choses plus informelles, au moment du café, enfin, ou de ce qui se passe après le repas, les hommes vont d'un côté et les femmes de l'autre. Parce que les hommes vont raconter des histoires lestes, enfin vont faire des choses qui ne, enfin faut protéger la pudeur des dames, il faut protéger, faut pas qu'elles entrent de façon trop crue dans la réalité. Vanessa va rester, Virginia va suivre sa sœur, et donc elles vont participer à toutes les discussions des garçons. Et là, il va y avoir un deuxième accélérateur. Le troisième accélérateur, je vais passer vite là-dessus pour pas tenir la discussion trop longtemps, mais troisième accélérateur, c'est un des garçons qui s'appelle Lytton Strachey. Lytton Strachey, nous les Français, on ne le connaît pas du tout. C'est un grand écrivain qui a écrit surtout des biographies, dont une magnifique de la reine Victoria. Mais il a écrit plein de choses. Et Lytton Strachey, il a huit frères et sœurs. Pardon, ils sont neuf dans la famille, huit frères et sœurs. Sa mère était suffragiste. Ses sœurs sont suffragistes. Et donc, il va amener avec lui un sentiment de féminisme, enfin une volonté...
Militant.
Militante. Et il va amener deux de ses sœurs volontiers au 46 Gordon Square, sa sœur Pernelle et sa sœur Philippa. Et Pernelle va être un personnage très important pour les Anglais. Elle va être très longtemps la directrice de l'université féminine de Cambridge, UNAM. Donc c'est un personnage très important. Et ces filles-là vont dire, mais attendez, regardez ce qu'on a vécu depuis des lustres. Et à ce moment-là, Vanessa et Virginia vont se taper la tête en se disant, mais c'est ça qui nous embêtait, en fait.
Donc voilà, c'est une les trois ou quatre déclencheurs qui ont poussé Vanessa et sa sœur Virginia qui suivaient à laisser tomber un très grand nombre des conventions et notamment cette répartition entre les hommes et les femmes. Un épisode qui est très intéressant, je trouve, dans le livre, c'est le moment où Virginia, qui elle aussi commence à penser très différemment de ce que pensaient ses parents et ses grands-parents, c'est de se coller à d'autres réalités. En particulier, elle se fait embaucher par le Morley College, où elle va enseigner la littérature. Elle a à peine 22-23 ans, je crois, à ce moment-là. Et elle va enseigner la littérature à des gens très simple, des ouvriers, des ouvrières, des hommes et des femmes mélangés qui ont envie de se cultiver. C'est une autre approche de cet abandon des conventions, hein, puisqu'on ne se fréquentait pas d'un milieu très très bourgeois, très aristocrate à ces milieux populaires.
Et ce qui est drôle, c'est de voir son évolution. Parce que quand elle arrive au Morley College, c'est la jeune fille de famille qui va, elle fait du pas tout à fait du bénévolat, mais presque, elle fait des bonnes œuvres, comme faisait sa mère, elle fait des bonnes œuvres. Et puis petit à petit, elle se rend compte que les gens qu'elle a en face d'elle sont vachement intéressants, et qu'ils ont des leçons à lui donner à elle, et qu'elle a à apprendre d'eux. Ça lui flanque une claque, certainement, dans un premier temps. Elle le dit pas trop que ça lui flanque une claque, mais j'en suis convaincue, parce que elle comprend où était son, quelque part, son erreur qui venait de son éducation, et que non, ben, elle a face à elle des gens, alors qui sont certainement moins instruits qu'elle, mais qui ont à lui apprendre un certain nombre de choses, et en particulier, elle note dans son journal, elle note le courage des femmes. Le courage de ces femmes qui passent leur journée au travail, le soir à s'occuper du mari et des enfants, et puis qui quand même dégagent une heure pour aller entendre parler de littérature. Et ça l'a, quelque part, ça lui fait quelque chose.
Et toute sa vie, elle sera intéressée par les gens, par les gens les plus simples, et comme elle se, elle sera intéressée aussi par tous les milieux, en fait. Oui. Mais cette expérience-là, je crois, a été très fondatrice pour elle de voir à quoi ressemblait le monde. On a évoqué tout à l'heure Toby et ses amis de Cambridge, et Toby. Il était plein d'idées. Il avait une énergie merveilleuse, très positive, toujours très heureux de vivre. Et il propose à ses sœurs et à leur petit frère Adrian un voyage en Méditerranée pour découvrir ce que c'est que l'Italie, la Grèce. Voilà, il voyage. Le retour sera plus difficile.
Oui, alors au départ, il part tout seul avec Adrian pour traverser à cheval l'Albanie, et il donne rendez-vous à ses sœurs et à des amis de ses sœurs. On se retrouve en Grèce et en Turquie. Et puis, au bout d'un moment, lui, il faut qu'il rentre parce qu'il a les examens à préparer. Donc, il retourne à Londres, et puis les filles terminent leur périple. Enfin, les filles et Adrian terminent leur périple et puis remontent à Londres. Et là, il le retrouve au lit, malade, fiévreux. Donc, tout le monde s'inquiète. Il meurt très très vite de la fièvre typhoïde. Catastrophe, évidemment, on peut l'imaginer, c'est une abomination, cette histoire de fièvre typhoïde. Mais c'est aussi un acte fondateur du groupe de Bloomsbury, parce qu'à partir du moment où Toby n'est plus là, les copains vont continuer à venir, et Vanessa va dire, bon ben, il faut que je continue cette affaire-là. Enfin, je sais pas si elle se le dit, on n'a aucune preuve qu'elle se l'ait dit, mais on pense qu'elle se le dit, parce que qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? Elle épouse Clive Bell. Donc Clive Bell,
C'est assez brutal parce que il se trouve que juste 2-3 jours après la mort de Toby, qui assomme toute la famille, Clive Bell arrive demande à Vanessa de l'épouser. C'est incroyable.
Oui. Alors c'était dans l'air déjà, parce que Clive était un peu amoureux de Vanessa.
Comme amoureux de beaucoup de gens.
Oui, voilà. Bon, il était amoureux d'elle. Il aurait bien voulu l'épouser, puis elle n'est pas spécialement tentée ni par le mariage ni par Clive Bell, mais à la mort de Toby, elle l'épouse. Brutalement, elle décide de l'épouser, ils se marient et ils s'installent donc, ils restent dans l'appartement qu'elle avait, et du coup Virginia et Adrian vont être obligés de déménager, mais ceci est une autre histoire et ça n'a aucune importance. Mais le fait qu'elle épouse Clive Bell lui fait reprendre le flambeau de Toby. En fait, Clive Bell est un copain de Toby de Cambridge, il fait partie de la même société secrète, il est historien de l'art quant à lui et critique. Il est surtout critique d'art, d'ailleurs. Plus critique d'art que historien d'art. Et voilà. Et c'est eux qui vont maintenant tenir les rames et essayer de maintenir la barque.
La barque, en fait, c'est des soirées. Chaque semaine, c'est, je crois, le jeudi,
oui,
le Friday,
c'est
le vendredi, voilà. Voilà. Oui, il y a deux soirées en fait, oui. Qui sont pas des soirées mondaines. Ce sont des soirées où on discute entre intellectuels et artistes de la vie, de la presse, de la société, des idées et des voyages.
Et on fait des blagues de mauvais goût. En plus, on se raconte des histoires un peu lestes, voilà.
Un autre, donc on a parlé de Lytton Strachey, c'est vous l'avez dit, un auteur très prolifique, beaucoup d'énergie aussi, on le retrouvera un peu plus tard, mais il y a un personnage qui est central pour tous ces artistes et ce mélange à la fois d'intellectuels, d'économistes, de philosophes et de poètes et d'écrivains, c'est Roger Fry. Alors, je le dis en français, Roger Fry, F-R-Y, c'est un personnage extraordinaire, lui aussi.
Oui, alors Roger Fry, il est vieux par rapport aux autres. Il est aussi issu de Cambridge, il faisait partie de la même société secrète, mais des années auparavant, il a 15 ans, je crois, de plus que Vanessa et Toby. Lui, alors, il arrive dans le groupe pour faire une conférence d'histoire de l'art. Et il va y rester. Il va rester dans ce groupe, il va dynamiser ce groupe. C'est un personnage extraordinaire. Moi, c'est par lui que je suis entré dans le groupe de Bloomsbury, parce que c'est un collègue historien d'art.
Historien d'art.
Voilà. C'est un ami de Bernard Berenson, avec lequel il a fondé la magnifique revue de Burlington, le Burlington Magazine. C'est un spécialiste du premier art italien, de la haute Renaissance, mais il s'est pris au jeu, c'est un homme qui s'est pris au jeu de la modernité et qui va tomber, lui, amoureux. Si Clive tombe amoureux de Vanessa, lui, il va surtout tomber amoureux de l'art moderne. Et ça, il va devenir ami avec Picasso, avec Derain, avec tous ces gens-là, qu'il va faire venir en Angleterre. Et si l'Angleterre s'est ouverte à l'art moderne, on le doit exclusivement à Roger Fry, qui ensuite a été suivi par des tas de gens. Mais c'est lui le premier, et au début, il était tout seul, Roger.
C'est fantastique parce que s'entrecroisent des vraies vies de la réalité, notamment avec Vanessa, on le verra, mais aussi de la vie artistique et de la vie intellectuelle londonienne et je dirais presque européenne. Le petit groupe qu'on a là va s'élargir d'année en année jusqu'à compter plus d'une cinquantaine de personnalités. J'ai presque des personnages, ce sont presque des personnages de théâtre tels que vous nous les racontez, mais ce sont des personnalités très fortes appartenant à la bourgeoisie anglaise. Et alors ils vont inventer un monde nouveau. Ça va être des créateurs de la modernité en Angleterre. Et pour vous, ils sont même le ferment d'une révolution. Et en quoi, selon vous, Marie-France Lavalade, sont-ils des révolutionnaires ?
Alors, sur plein de domaines, sur le domaine artistique, puisque vous avez parlé du domaine artistique, on va parler de ça d'abord. Sur le domaine artistique, ils sont révolutionnaires. Ils démarrent des arts, que ce soit des arts picturaux ou des arts d'écriture, qui sont tout à fait nouveaux. Hein, ils se lancent dans la modernité, donc ils sont révolutionnaires là-dedans. Mais ils sont révolutionnaires dans les mœurs. Parce que je voudrais dire un mot de l'homosexualité rapidement.
Alors, on va peut-être non, parce que vous m'avez introduit une musique. Vous avez introduit une musique dans vos choix musicaux qui n'est pas sans rappeler ce moment révolutionnaire. Vous avez choisi de nous faire écouter les Beatles dans Revolution, et précisément, nous reviendrons sur le ferment de révolution qu'il y a dans les comportements et dans les mœurs du groupe de Bloomsbury. Mais on écoute d'abord les Beatles.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, but when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Alright. Alright.
Vous écoutez Entre Chien et Loup, nous venons de quitter les Beatles et nous sommes sur IDFM Radio, ce soir en compagnie de Marie-France Lavalade, auteure d'un livre foisonnant, vous l'entendez, et passionnant, Virginia Woolf et le groupe de Bloomsbury. On était sur les relations, sur les mœurs, hein, sur l'aspect extrêmement novateur de ces personnalités. Quelles étaient les relations entre Vanessa et Virginia? Il se trouve qu'une curieuse histoire intervient entre Virginia et Clive Bell, son beau-frère. Enfin, tout est ouvert, on dirait open bar.
Oui, alors tout est ouvert, les relations. Alors, c'est un aspect du livre, mais sur lequel je m'attarde le moins possible, parce que ce n'est qu'un aspect du livre, mais il y a des relations intergroupes entre différentes personnes qui s'aiment, qui se quittent, qui se retrouvent. Enfin, Roger et Vanessa auront une liaison, Duncan Grant aura des liaisons avec Maynard Keynes, avec Lytton Strachey, avec James Strachey, avec Vanessa, etc., etc. Donc, voilà, ça c'est un aspect. Mais ce que disait Claude Lévy, c'est que très vite après le mariage de Vanessa, Virginia va, entre guillemets, draguer son beau-frère. Alors, elle va draguer son beau-frère, elle va lui envoyer des petits billets très équivoques, enfin bref. Donc lui, il va se prendre un petit peu au jeu. On ne sait pas jusqu'où c'est allé, mais je suis convaincue que ça n'est pas allé très loin, parce que... au vu et du journal et d'une correspondance plus tardive de Virginia, je dirais que c'est resté un flirt. Mais c'est un flirt qui va beaucoup peiner Vanessa, qui va pas très bien comprendre ce qui se passe, qui va avoir beaucoup de chagrin sur ce coup-là, mais qui va du coup tirer des leçons de l'histoire.
Alors précisément, après ce petit épisode petit flirt entre Virginia et Clive Bell, son beau-frère, Vanessa décide... Elle voit que son mari est quand même un séducteur. Il adore les filles et tout ce qui passe devant lui, il prend. Et donc il va dans des soirées avec ses maîtresses.
Oui.
Voilà. Donc
il l'invite à la maison.
Il l'invite à la maison.
Oui.
Mais Vanessa, d'une façon très très déterminée, décide qu'elle s'en fiche. Elle va, je voudrais vous citer une très bonne formule, je trouve. Vanessa décide de ne pas souffrir et d'inventer un espace où chacun serait absolument libre de ses attachements. Ça fait partie de cette révolution des mœurs.
Oui, c'est très important, je pense. C'est très important parce que, encore maintenant, c'est quelque chose qui est très rare. De trouver quelqu'un qui dit bon, là vous êtes dans mon monde et dans mon monde tout le monde est libre. Donc tout le monde fait ce qu'il croit devoir faire et puis voilà. Et elle prend les choses plutôt avec recul, avec intelligence et puis en se disant que c'est rare aussi qu'une union soit éternelle, que des unions souvent c'est des petits bouts d'union et que peut-être ça peut fonctionner comme ça. Et donc elle va l'accepter et elle va et autour d'elle dans le monde de Bloomsbury, c'est un monde aussi de ces relations qui sont passagères, mais qui jamais, jamais, à aucun moment n'empêche l'amitié.
Oui, l'amitié, c'est ça qui est extraordinaire, parce que ce soit entre hommes et femmes, on n'évoque pas les relations entre femmes, ce n'est pas mentionné.
Un petit peu entre Virginia et Vita Sackville-West, qui elle est une lesbienne assumée et qui va tomber amoureuse de Virginia, mais bon, sinon non.
Oui, Virginia s'en moque un petit peu, elle prend ça un peu par-dessus la jambe, d'autant qu'elle est dans un milieu Vita Sackville-West et d'un milieu ultra aristocratique, oui. Et alors Virginia voit ça d'un œil assez ironique. On a évoqué le personnage de Maynard Keynes qui va vraiment marquer ce groupe de Bloomsbury par son intelligence, sa vivacité. C'est un économiste brillant. On y reviendra à propos de la guerre de 14 et de la fin de la guerre de 14. Un autre sur le plan artistique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je trouve qu'il faut en deux mots y revenir. C'est Roger Free. Qui est tellement plein d'idées, tellement plein d'envie de faire découvrir l'art moderne à ses compatriotes, qu'il organise une exposition à Londres qui va marquer vraiment les esprits. Hein. C'est une exposition où il expose Manet et les post-impressionnistes. Il donne ce titre-là à l'exposition.
Oui, il va inventer un nom, hein, les post-impressionnistes. Donc, c'est les gens qui viennent après les impressionnistes. Mais ce ne sont pas les néo-impressionnistes. Les néo-impressionnistes, c'est les pointillistes, si vous voulez, pour aller un petit peu vite. Les post-impressionnistes, c'est ceux qui arrivent après l'impressionnisme et qui font autre chose. Donc, Gauguin est post-impressionniste, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, il va inviter les post-impressionnistes avec Manet, enfin... leurs œuvres, bien sûr. Manet est mort depuis longtemps à ce moment-là. Il va inviter leurs œuvres dans la première exposition post-impressionniste en 1910. Il y en aura une deuxième en 1913. Et les Anglais ébahis vont découvrir Matisse, Picasso, Derain, etc. Et Manet, bien sûr, qui est le grand... Le premier Manet avant l'impressionnisme, a beaucoup impressionné, c'est le cas de le dire, Roger Fry. Et il part de lui pour les post-impressionnistes, ceux qui, après l'impressionnisme, vont se méfier de ce que l'œil voit et vont recomposer le monde à leur manière, dans leur technique picturale. Donc il se méfie du... Roger Fry se méfie de la transposition directe de la réalité sur la toile. L'œil, c'est bien, mais faut pas s'en contenter et faut pas s'arrêter là.
Ce sera d'ailleurs un des axes principaux de la création, aussi bien littéraire chez Virginia que chez les peintres de cette école, notamment chez Duncan Grant, qui marquera évidemment encore beaucoup plus longtemps que les autres l'art pictural anglais. On est en 1912. On va revenir un tout petit peu à Virginia. On est en 1912 et Leonard Woolf rencontre et s'éprend de Virginia et décide de se marier au mois d'août. Qu'est-ce qui les rassemble, ces deux-là ?
Alors, c'est assez étonnant. C'est assez surprenant. En fait, Leonard Woolf vivait à Ceylan, où il gagnait sa croûte en étant administrateur colonial. Et comme c'était un ami de Cambridge, des autres garçons, les autres lui écrivaient, surtout Lytton, en lui disant, tu sais, reviens quand tu reviendras pendant les vacances, je te présenterai une amie, elle s'appelle Virginia, elle est très très bien, ce serait bien que tu l'épouses. Enfin bon, alors Léonard, ça le faisait plutôt rigoler, parce qu'il voyait pas l'intérêt de la chose, et il revient, et effectivement, il rencontre Virginia, et il tombe amoureux d'elle pour deux raisons. Elle est très belle. Ça, elle tient ça de sa mère. Il y a toute une lignée de femmes magnifiques dans cette famille. Elle est très belle. Elle est extrêmement intelligente. Et discuter avec elle, c'est un vrai plaisir. Et pour ces garçons-là, de cette génération-là, c'est extraordinaire d'avoir ces femmes qui sont libérées, avec qui on peut discuter absolument n'importe quoi. Et comme elle, ça fait des années maintenant, ça fait 4 ans, quand il arrive, ça fait même plus que ça, qu'elle discute avec d'autres garçons de Cambridge, elle a une culture, elle a une très bonne culture, en plus c'est une lectrice. Donc il tombe amoureux de ça. Elle, bon, elle est flattée qu'il soit amoureux d'elle, alors elle lui écrit des lettres en lui disant, bah écoutez, je vous aime bien, mais moi, de toute façon, coucher avec quelqu'un, ça me fiche la trouille. Donc moi, je veux bien vous épouser, mais on couche pas ensemble. Enfin, j'exagère un peu, je caricature, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Donc il va se lancer dans le vide sans parachute, c'est-à-dire qu'il va donner sa démission sans savoir de quoi il va vivre, avec une mère et 9 frères et sœurs. Lui, ils sont 10 dans sa famille. Lytton Strachey, ils sont 9, mais lui, ils sont 10. Il va falloir qu'il fasse croûter tout ce monde-là, alors qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Ben, il va tout lâcher, il va demander la main de Virginia, ils vont se marier, mais avant de se marier, ils vont écrire un petit billet à Lytton Strachey qui voulait les marier, et sur ce petit billet, ils vont écrire
Et voilà, tout. Il a gagné, il avait bien raison. Il se trouve que Léo Wolf est. Et par rapport aux autres, à une autre particularité, c'est qu'il est juif. Et c'est quand même pas forcément très, très bien admis dans le monde de l'aristocratie anglaise.
Et même dans le leur. Même dans le leur, Virginia parlera de lui pendant des années en disant « mon juif ». Leur monde est antisémite. Dans le groupe des intellectuels de Cambridge dont il faisait partie, Léonard, il était le seul juif. Le seul juif et le seul pauvre. Hein. Tous les autres, ils étaient riches et pas juifs. Mais lui, il était juif et pauvre. Il était supérieurement intelligent. C'est pour ça qu'il est rentré dans cette fameuse société secrète. Quand je dis société secrète, je voudrais pas que vous vous mépreniez parce que c'est simplement 12 garçons qui, chaque année scolaire, se cooptent. Alors, ça change chaque année scolaire. C'est les 12 plus brillants de Trinity College. Hein. C'est les 12 plus brillants.
Oui. Alors, j'aimerais revenir à Roger Fry, qui, toujours avec ses idées incroyables, crée quelque chose qui va ressembler un tout petit peu au Bauhaus de Berlin. Et il crée les ateliers Oméga. Oui. Ça, c'est une superbe invention, je trouve, pour les arts déco, pour les artistes. De quoi s'agit-il ?
Alors, juste avant la Première Guerre mondiale, Roger Fry va fonder les ateliers Oméga. Dans les ateliers Oméga travaillent des artistes, des artisans, de toute personne en rapport avec la production artistique, y compris la production de mobilier, de tapisserie, de tissu, etc. Alors, la particularité, c'est que tout le monde travaille librement. Faut un certain nombre d'heures quand même est demandé pour pouvoir percevoir un salaire. Et on ne signe pas. C'est-à-dire que ce soit Duncan ou Vanessa qui ait donné le modèle, ou Wyndham Lewis, ou n'importe qui, Sickert, on ne signe pas. On signe Oméga. Donc il y a ce signe de la lettre Oméga, de la lettre grecque Oméga, sur toutes les productions des ateliers Oméga, qui vont se maintenir tant bien que mal jusqu'en 1919. Ça commence en 13, ça se termine en 19. Ça va être magnifique. Aujourd'hui, on a très peu, nous, en France, de mobilier Oméga, mais je conseille aux gens qui m'écoutent d'aller au musée de la piscine de Roubaix, où il y a un certain nombre de meubles et de céramiques Oméga, dont un très, très beau plat dessiné par Duncan Grant.
Donc c'est vraiment superbe comme expérience, et vous la racontez merveilleusement dans le livre Marie-France Lavalade. Et d'ailleurs, Vanessa et Duncan y trouveront un véritable tremplin pour la création. Hein. C'est un stimulateur formidable. Duncan n'était pas très régulier dans ses œuvres, parce qu'il mettait beaucoup de temps à les fournir. Mais disons que globalement, il y a une dans ce groupe de Bloomsbury, tous les artistes y ont participé. Déjà plus de 10 ans que le groupe de Bloomsbury vit dans différentes maisons. Les maisons ont une importance incroyable, et vous nous les décrivez toutes les unes après les autres, parce qu'il faut déménager, il faut les installer, il faut les décorer, et c'est superbe d'ailleurs. Et puis en fonction des couples qui se font et qui se défont, il faut aussi que tout le monde s'y retrouve. Mais arrive 1914, et les prémices de la guerre se font sentir. Comment est-ce que vit le groupe de Bloomsbury à ce propos-là, depuis l'Angleterre, depuis Londres?
Alors déjà, il y a un point historique qu'il faut connaître, c'est que l'Angleterre ne va pas s'engager dans le conflit, enfin ne va pas engager des troupes, ne va pas faire de mobilisation générale, voilà, c'était le mot que je cherchais, ne va pas faire de mobilisation générale jusqu'en avril 1916. Donc jusqu'en avril 1916, les Anglais qui vont sur le continent pour se battre, c'est des volontaires. Il n'y a aucune obligation. À partir de 1916, par contre, il y a une obligation. Et là, c'est là que sont créés les objecteurs de conscience anglais. C'est-à-dire qu'on peut être objecteur de conscience en Angleterre à partir de 1916, à condition d'œuvrer pour la patrie. Donc, œuvrer pour la patrie, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous engager dans des usines d'armement, par exemple, ou aller à la campagne et devenir agriculteur pour remplacer les bras manquants. Alors, les agriculteurs sont devenus des soldats, donc vous allez remplacer. Et les garçons du groupe de Bloomsbury sont tous objecteurs de conscience. Sauf ceux qui réussissent à ne pas être objecteurs de conscience parce qu'ils ont un problème de santé. Ce qui va être le cas de Leonard Woolf, qui a la main gauche qui tremble depuis toujours. À la fin de sa vie, il aura les deux mains qui trembleront et très fort, mais sa main gauche tremble, il a une espèce de petite maladie nerveuse qui est pas du tout invalidante, mais qui fait qu'il va être réformé. Voilà.
On va aller et on va écouter votre deuxième choix musical, parce que il va nous emmener vers des très belles sphères artistiques. Il s'agit d'un extrait de l'ouverture de La Flûte enchantée de Mozart. On se retrouve dans un tout petit instant avec Marie-France Lavalade pour poursuivre cette aventure du groupe de Bloomsbury. Thank you. Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy, ce soir en compagnie de Marie-France Lavalade et de du groupe de Bloomsbury, avec comme figure phare Virginia Woolf, sa famille, ses amis et tout ce qu'ils ont apporté au monde moderne. Dans ce livre, on trouve énormément d'informations de première main sur la vie et les mœurs. On en a parlé un petit peu sur l'absence de tabou qui vraiment marque ce groupe. Il y a quelque chose que on n'a pas encore vraiment abordé, c'est l'œuvre de Virginia Woolf. Cette œuvre commence par quelque chose d'assez technique. On peut en dire un petit mot. C'est la création avec Leonard et Virginia de la Hogarth Press, et cette maison d'édition va publier les premiers ouvrages de Virginia. Marie-France Lavalade.
Oui, alors la Hogarth Press, au départ, c'est une idée qui leur est passée par la tête à l'occasion d'une petite balade, pas très loin des Kew Gardens à Londres. Ils vont avoir l'idée d'acheter une presse et puis de faire de l'impression. Et ça va leur permettre de publier un premier ouvrage qui est fait de deux nouvelles, une de Leonard et une de Virginia. Mais petit à petit, tous les livres de Virginia se paraîtront dans la Hogarth Press. Prélude aussi de Catherine Mansfield paraîtra à la Hogarth Press. The Westland de T.S. Eliot, qui sera prix Nobel plus tard, paraîtra aussi à la Hogarth Press. Donc c'est quelque chose qui est important. Et dans les premiers temps, c'est Virginia qui fait la composition avec les lettres, etc. Hein. C'est très fatigant pour eux deux. Ça leur coûte très cher, mais ils vont adorer faire ça. Et tous les livres de Virginia vont être publiés à la Hogarth. Elle existe toujours aujourd'hui. Elle a été mangée. Enfin, elle a été absorbée par une autre maison d'édition, mais elle a toujours son indépendance à l'intérieur de cette autre maison d'édition.
Oui, Virginia, extraordinaire lectrice, et Léonard aussi, extraordinaire lecteur. Ils écrivent des articles tout le temps, ils travaillent tout le temps. Mais Virginia, elle le dit très souvent dans son journal, doute d'elle-même. Il se trouve que Lytton Strachey, en lisant une des nouvelles, il écrit à Léonard des choses très 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 sensibles et très gentilles, à savoir que la nouvelle de Virginia est une œuvre de génie. La limpidité du style m'emplit d'envie. Comment diable fait-elle ainsi couler la langue anglaise? C'est formidable. Virginia Woolf n'est pas une auteure très facile d'accès. Est-ce qu'on peut donner à nos auditrices et nos auditeurs l'envie de lire et quoi?
Alors oui, la réponse est oui. Y a des livres un peu moins difficiles que d'autres. Bien sûr, Mrs. Dalloway, qui est très connue, est probablement un des moins difficiles. Je pense aussi à un livre qui s'est appelé longtemps La promenade au phare, qui s'appelle maintenant de façon plus littérale Au phare, qui est un livre plutôt autobiographique de Virginia. Et puis je vais conseiller celui que moi j'ai adoré, qui est le dernier qu'elle a écrit, qui s'appelle Entre les actes. Entre les actes, c'est un livre ravissant. Je le conseille vraiment. Puis je voudrais juste, puisqu'on parle du style de Virginia, dire que on pense toujours que c'est un style difficile, parce qu'il y a des livres, par exemple comme Les Vagues, qui est extrêmement difficile à lire, ou La Chambre de Jacob, c'est des livres très difficiles qu'il faut lire quand on connaît bien Virginia. Mais en fait, elle a un sens de l'humour et un regard. Alors je voulais juste vous lire quelques tout petit truc qu'elle avait écrit. Dans La Chambre de Jacob, par exemple, à un moment, on voit quelqu'un qui parle et Virginia écrit « Les mots tombaient de ses lèvres comme des miettes de biscuits secs ». Dans Les Vagues, aussi, qui est un livre aussi très difficile, on trouve à un endroit « Sa voix rude et poilue ressemblait à un menton mal rasé ».
Ah oui, elle a des fulgurances comme ça extraordinaires.
dans les années, on trouve le brodeau chaud était emmitouflé comme une vieille dame qui a mal aux dents, etc., etc. À un autre moment, elle compare la reine Victoria à un couvre-théière et Wellington lisse comme un dog qui tend la patte, etc.
Enfin, bon, voilà, c'est ça. Elle a le sens de l'observation et vous le dites dans le livre. Elle observe les gens, elle observe les animaux, elle observe les comportements et tout ça fait sa littérature.
Absolument, absolument. Et de temps en temps, elle parle toute seule dans la rue, elle répète toute seule des choses qui lui viennent à l'esprit. Oui, tout à fait.
Vous avez parlé de Catherine Mansfield avec qui est néo-zélandaise, toute jeune, avec qui elle sera amie avec une ambivalence dans cette amitié.
Jalouse, une amitié jalouse. Elle a toujours l'impression que Catherine Mansfield est meilleure qu'elle.
mais Catherine Mansfield disparaîtra très jeune à Fontainebleau d'une tuberculose. On a évoqué un peu le féminisme qui est aussi une valeur fondamentale de ce groupe.
Hein. Femme et homme. Oui. Léonard était féministe. Il a travaillé pour la Guilde des femmes. Il donnait des conférences. Enfin, il a vraiment été très engagé dans le féminisme. Lytton Strachey aussi était très féministe.
Oui. Alors on parle de Léonard et il était non seulement féministe, mais il était anticolonialiste, ce qui est incroyable. Et après que Maynard Keynes ait jeté un gros pavé dans la mare dans son ouvrage qui s'appelle Economic Consequences of the Peace, les conséquences économiques de la paix, dans lequel il alerte les pays alliés de ce que les réparations demandées à l'Allemagne sont impossibles et ça va détruire les équilibres mondiaux et les équilibres européens surtout, il s'est pas trompé. Et de son côté, Léonard aussi alerte sur la suffisance, sur l'arrogance de l'Empire britannique sur l'Afrique en particulier. On n'a pas le temps malheureusement de voir tout ça, mais tout ceci est dans le livre avec beaucoup de détails très vivants, Marie-France Labanade. Juste un mot, quel rapport entretenait-il avec la France ? Parce que vous évoquez le Midi, Saint-Tropez, Cassis, ils adoraient la France.
Oui, alors, merci de poser cette question. C'est très important pour moi parce que une des choses qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est de me rendre compte que ces gens-là étaient francophiles. Virginia Woolf a quand même lu Proust en français. Ils lisaient le français, certains parlaient le français, ils avaient des maisons en France, ils aimaient la France, et la France ne les connaît pas. La France connaît le nom de Virginia Woolf et le nom de Maynard Keynes. Alors bien sûr, d'autres choses aussi, on n'est pas tous pareils, mais très peu de gens connaissent le groupe de Bloomsbury. Le nom de Lytton Strachey ne dit rien à personne en France. Quant à Roger Fry, nous, on le connaît parce qu'on fait de l'histoire de l'art, mais sinon, on ne le connaîtrait pas. Donc vraiment, le rapport avec la France, ils ne savent pas aller où que ce soit sans passer par Paris au retour. Ils s'arrêtent toujours par Paris. Ils vont en Italie, ils s'arrêtent à Paris. Ils vont en Espagne, ils s'arrêtent à Paris. Et ils vont voir où en est Paris. Hein, ils sont très, très francophiles.
Oui. Un drame va toucher, enfin plusieurs drames vont toucher Vanessa, mais il y en a un particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la mort de son fils Julian, touché par un obus, et la manière dont on le lui apprend, c'est très dramatique. Comment Virginia va-t-elle finir sa vie? Elle a des cauchemars pendant des années. Comment va-t-elle finir sa vie, Marie-France Labanade?
Virginia a essayé de se suicider plusieurs fois. Elle est anorexique de façon chronique. Enfin, elle passe par des crises d'anorexie. Elle a toujours été sortie de là au dernier moment. À la fin de sa vie, elle est en train elle vient de finir un livre, encore une fois, et à chaque fois, c'est un sale moment. Donc, elle va charger son manteau de pierres. Hein, elle va mettre des pierres plein ses poches. Elle va partir se promener au bord de l'Ouse, qui est la rivière qui coule en bas de chez eux. Elle va dire, je vais me promener. Comme elle se promène régulièrement, Léonard se dit, ça va lui faire du bien, comme elle va pas bien en ce moment. Et puis elle ne revient jamais. On la retrouvera 3 semaines plus tard, hein, noyée. Donc elle meurt noyée à la fin d'un livre, ce qui est normal. puisque c'est à la fin de chaque livre qu'elle fait une crise de dépression.
Et elle avait rêvé, elle avait fait des cauchemars et elle voyait des hommes justement noyés comme ça. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Quelques mots quand même sur ce qu'a apporté, selon vous, et les suites du groupe de Bloomsbury, Marie-France Avalat, en deux mots.
Mais je pense que comme ils ont été assez vite, ils sont devenus assez vite très célèbres. Ils ont fait des émissions à la radio, ils ont fait des articles dans les journaux, ils ont écrit des livres, ils ont fait des tableaux. Ils sont devenus célèbres, donc ils ont été décriés, mais en même temps, ils ont été connus et leur révolution est arrivée. C'est-à-dire que ils ont révolutionné les mœurs. C'est à partir de... Bon, alors c'est une ambiance, il n'y a pas que eux là-dedans, mais ils ont été le fer de lance d'une modernisation véritablement des mœurs et des conceptions anglaises. Hein. Il faut savoir que pendant toute leur vie, l'homosexualité était punie de prison. C'était un crime. C'était puni de prison. Bon, après, ça, maintenant, c'est quelque chose de naturel et personne... Enfin, il y a des gens qui y voient à redire, mais enfin, la loi n'y voit rien à redire. Ça, c'est eux, entre autres choses.
Sur le plan artistique et intellectuel.
Sur le plan artistique de la peinture, ils ne seront jamais ni Duncan ni Vanessa aussi importants que des gens comme Derain, Picasso ou Matisse. Mais ils ont amené une modernité dans leur pays. Ils ont fait des œuvres magnifiques, en particulier des peintures murales absolument extraordinaires. Bon.
On peut voir les peintures de Duncan Grant au musée de Newcastle et le musée, le site du musée de Newcastle permet de voir cette grande créativité et cette patte très très spéciale de Duncan. Voilà, ben on arrive au terme de cette émission. On se quittera sur le Stabat Mater de Domenico Scarlatti, qui est aussi votre choix. Mais je dois vous remercier infiniment, Marie-France Lavalade, pour cette plongée dans l'aventure du groupe de Bloomsbury, une aventure intellectuelle, une aventure artistique, une aventure humaine avant tout. Je rappelle le titre de ce livre où foisonnent toutes ses vies, ses idées, mais aussi des drames. Virginia Woolf et le groupe de Bloomsbury aux éditions de L'Harmattan. C'est aussi une bonne initiation à la lecture de Virginia Woolf. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h sur IDFM Radio pour une nouvelle émission entre chiens et loups, consacrée cette fois à tout autre chose, à la nouvelle vision que l'on peut avoir du travail aujourd'hui. Merci de votre fidélité, bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM et je vous laisse en compagnie de Domenico Scarlatti. Merci encore Marie-France Lavalade.
Merci à vous.